Merci Fiona. Bonjour à tous. Je vais enlever ce masque. Content d'être avec vous et content, j'espère, de pouvoir vous voir un peu plus tard sur Zoom. Où, en fait, aujourd'hui, je pense que ce serait plutôt Benjamin qui sera là sur le Zoom. Comme on a quelques visiteurs ici sur place, on est toujours 16 personnes maximum, 15 plus le ministre du culte. J'aimerais profiter aussi pour échanger un peu avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui. J'espère que malgré l'annonce qu'il n'y avait pas d'annonce à faire vendredi en ce qui concerne le confinement, en ce qui concerne donc là où nous en sommes par rapport à la perspective de se réunir, j'espère que là où vous êtes, vous ne perdiez pas courage, vous continuez à vouloir tourner le regard vers le Seigneur qui nous fortifie dans toutes nos circonstances. Donc, je vous invite à prier avec moi et puis on va regarder un peu plus les détails de cette magnifique histoire que nous venons de lire de Jacob, d'Ésaü et de Dieu. Donc, prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, avec l'apôtre Paul, nous voulons te demander de te révéler à nous ce matin. Nous voulons qu'à travers ce que nous écoutons, nous soyons capables, nous, de comprendre avec tous les saints rassemblés, que ce soit en physique, en présentiel ou en virtuel, mais de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que tu sois avec nous, Seigneur. Par ton esprit, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons terminer aujourd'hui avec un chant très connu dans le monde anglophone. Ce chant s'appelle « Grâce infinie » ou « Amazing Grace », comme on dit en anglais. C'est écrit par un homme qui s'appelle John Newton. Lui, à 22 ans, c'était un homme dur. Difficile. Un marin impliqué dans le commerce des esclaves en Afrique, qui vivait en Angleterre, lui. Il était impliqué dans même le viol des esclaves féminins sur des bateaux dans lesquels il travaillait. En mars 1748, son navire de commerce fait face à un terrible orage. Un marin est perdu par-dessus bord et lui, il crie pour la première fois de sa vie, « Seigneur, aie pitié de nous. » Endommagé, le navire prend des semaines avant d'arriver à port. Mais miraculeusement, il est sauvé. Et de là, Newton est converti. Et voici, après une lecture d'un livre, une biographie de Newton, ce qu'un autre écrivain a écrit, c'est traduit de l'anglais. Merci à Monique qui m'a aidé avec cette traduction. Son appel, donc je lis, son appel à la miséricorde pendant qu'il se noyait a été immédiatement répondu. Et le cœur de Newton, qui jadis crachait la méchanceté, le blasphème, allait bientôt devenir un cœur d'où jaillirait de magnifiques hymnes de louange à Dieu. La même langue qui crachait des malédictions au nom de Dieu et faisait rougir les marins allait devenir la langue qui dirigeait le culte collectif du peuple de Dieu en honorant le saint nom du Seigneur. Ce misérable marin qui était en train de couler allait être celui qui a composé un hymne qui perdure dans l'esprit et le cœur des gens jusqu'à ce jour, un hymne si populaire que ses paroles sont aussi reconnaissables dans le monde anglophone que n'importe quel hymne national. De plus, la traite lucrative des esclaves à laquelle il participait allait être abolie en partie grâce à son œuvre d'abolitionniste. Newton allait devenir un pasteur, quelqu'un qui ne conduisait plus les pécheurs dans le péché, mais qui éloignait désormais les pécheurs loin du péché. Avec le temps, des centaines d'âmes se rassemblaient chaque dimanche pour écouter ces sermons. Seul Dieu lui-même aurait pu imaginer ce qui attendait Newton. tout comme Jonas qui a fui Dieu, Newton a été délivré de la mort en mer afin de prêcher la bonne nouvelle. C'est une magnifique histoire, ce qui lui est arrivé par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant, alors connaissez-vous la grâce infinie de Dieu qui transforme les hommes? Vous connaissez cette grâce-là, oui ou non? L'Église de Jésus-Christ n'est pas composée de ceux qui ont un type de personnalité, si vous voulez, un type de culture, ceux qui sont d'une certaine génération plutôt qu'une autre. Non, l'Église de Jésus-Christ est composée par un ensemble très divers de toute l'humanité. Qu'est-ce qu'ils partagent tous en commun? Le fait d'être transformés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si l'Église vous paraît comme étant un peu banal, c'est ce que vous continuez à voir la foi chrétienne, vous, j'imagine, comme étant plutôt une obligation religieuse, une tradition culturelle ou une activité familiale, un rappel moral. Et c'est vrai que dans la société, c'est ça l'Église, n'est-ce pas? Pour le changement personnel dans notre société aujourd'hui, on va où pour ça? Bon, ça dépend, mais soit c'est le médecin, soit c'est le psy, soit c'est le psychologue, soit c'est l'entraîneur personnel, éventuellement qu'on trouve sur Instagram ou sur YouTube. Mais on va à l'Église pour le changement personnel. Et oui, le texte de ce matin que nous avons lu nous pousse à contempler à quel point le béaba de l'activité de Dieu dans ce monde-ci, c'est la transformation des hommes et des femmes. Transformer comment? Par une expérience personnelle de la grâce, de la bonté de Jésus-Christ. On va voir ça d'abord dans le tout dernier verset du texte que nous avons lu, verset 20 du chapitre 33. Il y plaça, parlant de Jacob, un autel qu'il appela El Eloé Israël. Littéralement, donc Dieu, le Dieu d'Israël. Alors c'est un nom, oui, mais ce n'est pas n'importe quel nom ici employé par Jacob pour nommer cet autel, loin de là. Non, au verset 18 de ce même chapitre, Jacob arrive après 20 ans d'absence en Canaan. Il est de nouveau dans la terre promise. Alors, si vous avez la Bible toujours ouverte, revenez avec moi vers le chapitre 28. Parce qu'il y a beaucoup de contrastes entre le chapitre 28 et le chapitre 32 et 33 dans son ensemble. Au chapitre 28, le moment où Jacob avait été contraint de quitter la terre promise, après avoir trompé son frère pour une deuxième fois, on lit au verset 11 que c'est là, au coucher du soleil, il y a une rencontre lors d'un rêve de Jacob avec des messagers de Dieu. Le Seigneur se révèle à Jacob à ce moment-là. Et que lui dit-il? Verset 13 du chapitre 28. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, est le Dieu d'Isaac. Je le suis. Mais qu'est-ce qui manque lorsqu'il le dit? Au chapitre 28, il ne dit pas encore « Je suis aussi ton Dieu, le Dieu de Jacob ». Non, il promet par la suite d'être avec Jacob, de garder Jacob partout où il ira, de le ramener à la terre promise. Mais au chapitre 28, Jacob, lui, ne comprend pas encore la portée de cela. Il voit toujours Dieu comme étant quelqu'un à exploiter, comme il l'a fait jusque-là dans son parcours avec son frère. Il dit, verset 20 du chapitre 28, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. » Jacob ici, si vous voulez, il est très Jacob. Si ce Dieu peut l'aider, ben alors tant mieux, ça serait chouette. Mais c'est Jacob qui met les clauses d'un contrat éventuel avec Dieu. Faites ça pour moi, ok, et je serai avec toi. Même dans notre texte de ce matin, chapitre 32, verset 10, Jacob s'adresse à Dieu comme étant, verset 10, « Seigneur Dieu, Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac, mais toujours pas mon Dieu. » Mais c'est dès ce moment-ci, chapitre 32, chapitre 33, lors de son retour vers la terre promise, que nous voyons la transformation chez Jacob. Au début de ce chapitre 32, il voyait encore des messagers de Dieu, un reflet de ce qu'il avait vu donc au chapitre 28. Eux, ils forment un camp, une troupe, tout comme Jacob, lui, avait son entourage autour de lui, et eux, ils formaient également une troupe. Donc, il appelle le lieu Mahanaïm, les deux troupes, littéralement. Et à la fin de ce chapitre 32, on voit cette lutte qu'il y a avec Dieu à travers un homme. Jusqu'à quel moment il lutte, verset 25 du chapitre 32? Jusqu'au lever du soleil. Donc, on n'est plus au coucher du soleil, comme au chapitre 28. C'est un événement un peu énigmatique, mais combien formateur pour Jacob, car c'est là où Dieu lui dit qu'il changera Jacob de nom. Que lisons-nous, verset 31? Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil s'est levé. Symbole donc d'un changement, oui, car les circonstances de Jacob ont changé. Il quittait la terre promise en fuyant pour sa vie, aucune possession sur lui ou avec lui, et il rentre réconcilié avec son frère, béni par Dieu, matériellement parlant. Mais plus que cela, dans ce dernier verset que nous avons lu, verset 20, il réclame le Dieu d'Abraham et d'Isaac pour son propre Dieu à lui. Il appela l'autel Eloué Israël. Dieu, le Dieu d'Israël. C'est ça son nouveau nom, son Dieu. Et cette transformation, je pense, nous met, chers amis, au défi. Car ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et maintenant, oui, de Jacob, nous invite également à le connaître personnellement, chacun d'entre nous, de réclamer ce Dieu comme étant notre Dieu, mon Dieu. Souvenez-vous de Thomas, le disciple de Jésus. Après la résurrection de Jésus, Thomas qui doutait de cette résurrection corporelle de son maître, au moment où il met ses mains dans le côté de Jésus, qu'est-ce qu'il exclame? Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez dire cela pour vous-même? Est-ce que vous voulez dire cela pour vous-même? C'est vrai qu'un culte en direct sur YouTube, cela vous permet d'assister à un culte un peu de loin, n'est-ce pas? De contempler Jésus de loin, de dire que je m'adhère en partie à tout ceci, sans pour autant que vous vous engagez vous-même à Jésus-Christ. Vous pouvez dire, oui, je vois qu'il est Seigneur et Dieu. Mais dire qu'il est mon Seigneur et mon Dieu, ben cela témoigne de connaître ce Dieu, d'être connu par lui, d'être donc transformé par lui. C'est ça ce que ce texte de ce matin nous présente. Donc, traçons d'abord les grandes lignes de ce récit en trois parties, pas difficile, je pense, à voir. Ensuite, nous allons tirer quelques leçons quelques marques de qu'est-ce qu'une vie transformée. Donc d'abord, premier épisode, c'est Jacob et Ésaü, début du chapitre 32. Et que voyons-nous? Mais c'est surtout la peur de Jacob. On se rappelle un tout petit peu du contexte. Suivant le commandement de Dieu, Jacob vient de quitter au début du chapitre 32 son beau-père, Laban, qui l'avait tellement insisté pour sa labeur. C'était 20 longues années de service. Mais maintenant, Dieu lui dit de rentrer au pays de ses pères. Et s'il est parti pauvre, grâce à Dieu maintenant, il retourne riche. Très riche. Il a une grande famille. À ce stade, il a 11 des 12 enfants qu'il aura. Mais des 12 fils qu'il aura. Mais il s'est appelé à revenir à son pays. Il sait ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire face, lui, à son passé. Cela signifie qu'il doit faire face à son frère, Ésaü. La dernière fois qu'il avait contact avec son frère, Ésaü a résolu de le tuer, de se venger pour la tromperie de Jacob. Et leur mère, Rebecca, avait dit à Jacob lors de son départ de la terre promise, « Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. » Donc, Jacob doit savoir ce qu'il en est de cette colère pour qu'il puisse revenir. Et donc, il envoie des messagers à son frère qui se trouve, quant à lui, au pays d'Édom. Et Jacob, toujours comme étant Jacob, il prépare minutieusement ce que ses messagers doivent faire. Il essaie toujours de contrôler ce qu'ils doivent dire pour que son frère soit bien disposé de lui faire grâce. Verset 7, les messagers sont de retour. Que disent-ils? Nous sommes allés vers Ésaü, ton frère, il marche aussi à ta rencontre, avec 400 hommes. La réaction de Jacob? Il eut très peur. L'angoisse le saisit, nous dit le texte. 400 hommes! Mais qu'est-ce que je vais faire? Je viens de donner dans un sens feu vert à mon frère de faire ce qu'il souhaite faire depuis 20 ans. Et donc, que fait-il? Il reste toujours Jacob. Il concocte un plan d'action de diviser son camp en deux pour que si une partie est attaquée, l'autre puisse échapper. Mais ensuite, il prie. Et dans un sens, nous pouvons dire, mais bien sûr qu'il prie, c'est normal, parce qu'il est en danger à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup d'autres options ouvertes devant lui. Mais le contenu de la prière révèle le changement chez Jacob. Car il n'y a pas ici dans cette prière, « Si tu fais ceci pour moi, je te considérerai comme mon Dieu. » Non, verset 11, que dit-il? « Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montrée envers moi, ton serviteur. » Là, nous avons affaire à quelqu'un qui connaît Dieu tel qu'il est. Fidélité ici désigne sa bonté, la bienveillance de Dieu, en ligne avec ses promesses, une bienveillance donc fiable. Voici donc ce qu'il plaide à Dieu. Délivre-moi, je te prie. Il ne cache pas sa peur. Je crains qu'il vienne pour me frapper, il dit. Tuons la mère sur ses enfants. Il plaide également les promesses de Dieu explicitement au verset 13. « Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. » Ensuite, il continue ses préparatifs, malgré sa peur. Et il s'organise pour que lors de son arrivée, Ésaü aura une succession de dons. Et c'est énorme ce qu'il propose comme don pour son frère. Je n'ai pas encore eu l'occasion de demander à la famille Bakalania la dot qu'ils viennent de recevoir de la part de la famille de Serge, ni de ce que la famille de Laetitia a reçu de la part d'André. Mais déjà, j'imagine, une chèvre, une vache ou deux sera pas mal, selon notre contexte actuel. Ici, il y a 200 chèvres 20 boucs, 200 brebis, et ainsi de suite. Au total, il y a, je pense, 550 animaux, d'après le verset 16. Ça témoigne de la richesse de Jacob, mais aussi de sa peur de pouvoir apaiser la colère de son frère. Nous comprenons bien, Jacob veut faire de son mieux pour que la colère de son frère soit apaisée. C'est ce qu'il dit lui-même au verset 21. Il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Et ensuite, je paraîtrai en sa présence. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le langage est quasi sacrificiel, en fait, ici. Ce présent rendra son frère propice à son égard. Ce n'est pas certain, mais on ressent la panique et la peur de Jacob, car il prend sa famille et il passe le gué de Yabok pendant la nuit, au verset 24. J'imagine que ce n'est pas facile de traverser cette rivière pendant la nuit avec toute sa famille. Mais en voyant sa famille en sécurité de l'autre côté, la nuit à Jacob n'a pas encore terminé. Et donc, deuxième épisode, c'est Jacob et Dieu, la lutte. C'est à ce moment-là où il y a cette lutte entre un homme inconnu jusqu'au lever de l'aurore. Et dans un sens, la grande surprise, c'est que c'est Jacob qui gagne cette lutte. Car verset 26, l'homme voyait qu'il ne pouvait pas s'imposer. Cet homme donc blesse Jacob, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, qui s'est démis pendant la lutte. Peu importe, Jacob ne lâche pas. Et même lorsque l'homme lui dit de le laisser partir, quand l'aurore se lève, Jacob, encore Jacob, toujours tenace lui, il répond, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » L'homme lui demande son nom. Bien sûr, quand il dit Jacob, cela rappelle les erreurs de Jacob, la tromperie de Jacob, celui qui a supplanté deux fois son frère de par le passé. Mais verset 29, l'homme lui dit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël. » Au lieu d'être défini donc par tes fautes, Jacob, on te définit autrement, tu auras une nouvelle identité. Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Voilà, voici la ténacité de Jacob, récompensée, car il cherchait une bénédiction de Dieu à tout prix. Il avait compris que cet homme venait de Dieu, bien entendu, était Dieu en quelque sorte. Car cet homme bénit Jacob, et Jacob appelle le lieu Peniel, ce qui signifie face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Avait-il réellement emporté la victoire sur Dieu? Non. Non, Dieu, qui a blessé sa hanche, aurait pu le mettre à mort s'il le souhaitait. Mais Dieu voit que Jacob cherche la bénédiction, non pas pour son gain personnel, mais comme la prière au chapitre 32 nous l'a montré au verset 11, parce qu'il reconnaît enfin la bonté et la fidélité de Dieu. Et de cet événement, le peuple de Dieu, du reste de l'Ancien Testament, tire son nom, Israël. Un peuple donc qui dépend de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cet épisode préfigure l'épisode suivant, troisième volet, lorsque Jacob est réconcilié avec son frère Ésaü, la grâce. Car si ici il a vu Dieu face à face et il a eu la vie sauve, lorsqu'il plaide avec Ésaü d'accepter son offrande, il lui dit au verset 10 du chapitre 33, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. En effet, j'ai paru en ta présence comme en la présence de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Donc ces événements nocturnes donnent une confiance à Jacob. Après tous ces préparatifs pour rencontrer Ésaü, c'est lui, verset 3, hein, chapitre 33, de manière courageuse, qui prend l'initiative, prend le devant pour passer devant sa famille, pour se prosterner devant son frère dans toute humilité. Cette fois, s'humilier devant son frère, c'est de s'humilier devant Dieu, parce que les deux événements représentent une réalité. Tout comme être accepté par son frère, c'est d'être accepté par Dieu. C'est donc reconnaître son tort. Il cherche Jacob, en quelque sorte, par les présents de rendre la bénédiction qu'il a volée, qu'il avait arrachée d'Ésaü. La réconciliation est touchante, je trouve, verset 4, n'est-ce pas? C'est Ésaü, est-ce que cela évoque plus tard le parabole du fils prodigue où le père court à l'encontre de son fils? Ici, c'est Ésaü, le trompé, qui court à la rencontre de son frère. Il le serrait dans ses bras, se jette à son cou et l'embrassait. Et il pleurait. C'est un peu d'Hollywood ici, je trouve, n'est-ce pas? Sauf qu'Hollywood évite trop de parler de Dieu. Pour Jacob, c'est clair. Ésaü lui fait grâce, tout comme Dieu lui fait grâce. C'est pour ça qu'il insiste que son frère accepte son cadeau, même s'il n'en a pas besoin. C'est un marqueur important pour Jacob de sa repentance, de sa joie de trouver grâce aux yeux de son frère et aux yeux de Dieu. Verset 11, « Accepte mon cadeau, je te prie. Il t'a été offert, puisque Dieu m'a fait grâce et que j'ai tout ce qu'il me faut. » Donc au lieu de profiter de Dieu et de son frère, il reconnaît Jacob la grâce qui lui a été faite. Ésaü accepte et après un petit moment, les deux frères continuent leur propre chemin. Ésaü, chez lui, Jacob, vers la terre promise. Et en arrivant, il place cet autel qu'il appelle El Eloé, Israël. C'est une histoire réjouissante, chers amis, puissante. Et donc cela nous laisse quelques repères, je pense, légitimes pour évaluer, pour cibler même le genre de transformation que nous cherchons à notre époque dans l'Église de Jésus-Christ. Et donc, voici trois marques d'une telle transformation. Première marque, dans un sens, c'est deux jonglées dans une seule, l'humilité par rapport à nous-mêmes, la dépendance par rapport à Dieu. Tout au long de sa vie, Jacob a été le malin, celui qui luttait, celui qui opérait des intrigues pour avancer, pour avoir ce qu'il voulait. Mais on arrive ici au chapitre 33 et ce n'est plus un homme qui dépend de ses propres ressources. Physiquement même, il est blessé. Mais il a compris qu'il n'a pas besoin de ses forces physiques car ce qu'il reçoit de Dieu ne dépend pas de lui. C'est par grâce qu'il reçoit ce que Dieu lui donne. Dieu agissait comme cela envers Jacob. Il faisait de même envers la nation d'Israël. Peut-être vous vous souvenez de ce que Moïse dit à Israël en Deutéronome 7. C'est parce que le Seigneur vous aime que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libéré de la maison des esclaves. Non pas parce que Israël était un peuple supérieur aux autres. Et Dieu agit de même encore aujourd'hui, envers chaque croyant en Jésus-Christ. On peut aller dans beaucoup de différents endroits dans le Nouveau Testament pour montrer cela. Éphésiens 2 nous dit quoi? Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, ce n'est pas par nos propres œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. L'Église de Jésus-Christ n'a plein de place pour ceux qui se vantent, ceux qui se croient toujours forts devant Dieu, ceux qui croient toujours pouvoir apporter quelque chose à Dieu. L'Église de Jésus-Christ n'a que de la place pour ceux qui voient la pauvreté de leur état devant Dieu. Nous sommes de nature morts, spirituellement parlant, morts dans nos offenses, dans nos fautes, dans nos péchés. On ne parle pas ici des fautes des autres. Là, certainement, j'imagine pour vous, vous avez subi des fautes aussi de la part des autres. Jacob aussi, n'est-ce pas? Mais Jacob ne dit pas, je ne suis pas aussi mauvais que Laban, vous savez. J'ai besoin de 10 ans de thérapie pour me remettre de ce que Laban m'a dit. Non. Jacob confesse ses fautes à lui. Il réclame donc la grâce pour lui-même. L'apôtre Paul continuait en Éphésiens, « Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus. » Ça, c'est le cas pour chaque membre authentique de l'Église de Jésus-Christ. Son ouvrage, on vient ensemble pour témoigner de sa grâce envers nous. Oui, c'est grâce à Dieu, sa grâce envers nous, que nous sommes en Jésus-Christ. Et deuxième marque de cette transformation, cette grâce ne nous laisse pas inactifs. Non, deuxième marque, le courage de faire face aux défis personnels. Cette grâce nous pousse, nous a dit l'apôtre Paul, à des œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance. À suivre les commandements de Dieu, de Jésus-Christ, quoi que cela nous coûte. Pour Jacob, cela a coûté sa fierté. Cela, d'après lui, allait éventuellement lui coûter même sa vie, car il ne savait pas comment Ésaü allait réagir. Jésus nous invite à faire face à nos défis, à nous. La repentance est coûteuse, vous savez. Être un disciple de Jésus, il dit à la fin de Matthieu 28, c'est d'être quelqu'un qui suit tout ce qu'il nous a prescrit, Jésus. Et ça, ce n'est pas évident. Faire tout ce qu'il nous a prescrit, c'est de lui confier notre vie tout entière. C'est de renier à soi, se charger de sa croix, suivre Jésus. La marque donc d'une transformation effectuée par Jésus, ce n'est pas de traiter Jésus comme un entraîneur personnel qui peut combler mes besoins ressentis, qui est là pour mon épanouissement personnel, comme s'il n'a pas le droit de mon abonnement s'il n'est pas à la hauteur, s'il ne comble pas avec tout ce que moi je demande. Non, c'est dur plutôt pour nous de nous soumettre à ce que Jésus nous dit. C'est coûteux faire cela. Ça demande de la repentance. Mais être transformé par Jésus exige cela. Se contenter, si vous voulez, de suivre Jésus à distance. Est-ce que vous êtes en train de faire ça, chers amis? À distance par votre famille, à distance simplement par Internet, parce que ça convient, vous ne devez rien faire pour suivre ceci. À distance par un conjoint, bénéficier en partie de ce que c'est de connaître Dieu? Non, le croyant en Christ fait preuve de courage personnel face aux différents défis de la vie. Le courage de se repentir, quoi que cela coûte. Le courage de s'identifier à Christ par le baptême. Le courage de s'afficher comme croyant dans mon entourage. Le courage de ne pas vouloir se conformer à ceux qui m'entourent. Mais d'où vient donc ce courage-là, vous vous demandez? Alors la troisième marque, c'est laquelle? C'est l'expérience personnelle de la grâce de Dieu. Jacob a lutté lui-même avec Dieu. Il a pu comprendre que Dieu est un Dieu qui bénit, qui le bénit par sa grâce seule. Et il réclamait, il luttait pour cette grâce, pour lui-même, peu importe le coût. conséquence, il a reçu une nouvelle identité, Israël. Le chrétien authentique, c'est celui qui a savouré pour lui-même la merveille de l'amour de Dieu, qui chérit cet amour, qui lutte pour bénéficier de cet amour, si vous voulez, à un point où il est prêt à renoncer à toute autre chose afin de bénéficier de ce trésor-là. Une personne qui a donc une appréciation profonde de Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait dire ceci de sa vie à lui. « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc le chrétien a aussi une nouvelle identité en Christ. Il continue « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, nous sommes invités à contempler non pas un homme un peu énigmatique, comme devait faire Jacob, mais comme disait l'apôtre Jean, la parole faite homme, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, Jésus. Et lorsque Jean dit grâce et vérité, ce sont les mêmes mots que nous avons vus lors de la prière de Jacob au verset 11 du chapitre 32, traduit la fidélité et loyauté. Mais lorsqu'on arrive dans le grec, dans le Nouveau Testament, on parle de grâce et de vérité. Jésus nous montre Dieu de manière définitive. C'est là où nous voyons Dieu, nous contemplons sa gloire. Jacob l'a fait en partie. Jésus fait cela pour nous de manière définitive. Et nous sommes invités à connaître donc Jésus personnellement. Non pas de dire qu'il s'est livré pour nous, c'est vrai qu'on déclare cela ensemble, mais pour pouvoir dire cela ensemble, nous devons pouvoir dire qu'il s'est livré pour moi. Est-ce que vous pouvez dire cela? Newton, dans son chant Amazing Grace, qu'on est sur le point de chanter, dit ceci dans la deuxième strophe, je pense. « Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. » Ça, c'est l'indice, la marque d'une transformation de Dieu. Donc, voici trois marques de cette transformation que Dieu effectue. Pendant toute une période, Jacob luttait selon les moyens du monde pour réussir, n'est-ce pas, pour avancer. Mais ici, nous avons donc un Jacob qui comprend que sa vie, la bénédiction dont il bénéficie, se repose uniquement sur la grâce souveraine d'un Dieu qui est bon envers lui. Enfin, il a compris qu'il n'a pas besoin d'être fort. Et comme disait Adrien en citant l'apôtre Paul, il a appris que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Même avec une écharde dans la chair, comme Jacob en avait, il comprenait, Paul, qu'il pouvait persévérer. « Ma grâce te suffit », le Seigneur lui a dit. Donc, si cela n'a pas de sens pour vous, chers amis, en terminant, c'est que vous ne voyez pas encore votre besoin profond de la grâce de Dieu. Et si cela a du sens pour vous, gardez ces grâces, retenez ces grâces dans votre vie. Peu importe l'écharpe dans votre chair, le rappel que vous devez dépendre de Dieu, c'est une grâce de la part de Dieu. Remercions notre Dieu bienveillant pour sa grâce qui nous suffit. Oui, Newton, dans le troisième strophe, écrit ceci. À travers labeur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Ce que Dieu a commencé par sa grâce, il va rendre cela à terme. Nous pouvons lui faire confiance. Prions ensemble, chers amis. Quelle joie, Seigneur, de connaître ta grâce envers nous, que c'est par grâce, en effet, que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous te prions, Seigneur, que en tant que ton ouvrage en Jésus-Christ, nous puissions être en train d'exercer ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous, avec le courage, le même courage dont Jacob faisait preuve ici. Sois à l'œuvre, Seigneur, pour ta gloire dans nos vies. Donne-nous de faire appel à toi, parce que tu es un Dieu qui est bon envers nous, en Jésus-Christ. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen.